RCF. Bonjour à toutes et à tous. On renvoie souvent à l'Église catholique qu'elle est rétrograde, peu moderne et pas en phase avec la société. Bien que catholique et pratiquant, je ne peux pas m'inscrire totalement en faux dans cette image que véhicule notre Église occidentale. Alors attention, je ne remets pas en cause à proprement parler le magistère et les grands principes de la morale catholique. En effet, je ne suis ni bibliste, ni philosophe, ni théologien, et donc illégitime pour cela. En revanche, sur le plan du système de son organisation, il y aurait à mon avis à redire sur la question de la gouvernance. Et cet édito à lui seul ne permettrait pas d'en faire le tour. Management, marketing, communication, gestion des ressources humaines, transition digitale. Et sur tous ces points, nos diocèses sont, à mon avis, un peu en retard, restant sur des modèles classiques, un tantinet pyramidaux. Et pourtant, en 1891, avec Rerum Novarum, l'Église entrait dans la modernité. Elle était précurseur sur la question de l'anthropologie sociale chrétienne, créant ainsi dans son giron une réflexion sur la place de l'homme dans l'économie, réflexion reprise de manière opérationnelle par des mouvements chrétiens comme les EDC, mais aussi l'AJOC, le MCC, et aussi d'autres mouvements hors église comme le CJD, le Centre des Jeunes Dirigeants Chrétiens, qui depuis 1938 porte haut et fort l'étendard d'une économie au service de l'homme. Les mouvements d'innovation sociale comme celui du bonheur au travail, l'entreprise libérée ou de la RSE sont en soi une application concrète de la mise en place de la doctrine sociale de l'Église, de l'anthropologie sociale chrétienne. Ils œuvrent tous pour une économie du bien commun. Mais quand on regarde nos structures diocésaines, associations et mouvements, et que l'on observe leur fonctionnement, on a le sentiment que c'est un peu « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». On pourrait trouver des raisons aussi diverses que variées et des solutions en pagaille pour réformer cela. Mais faut-il vraiment réformer ? Ne faut-il pas justement disrupter, c'est-à-dire prendre le contre-pied culturel et aller vers de nouvelles manières de faire ? Et qui mieux que la génération des millennials pour aider notre Église de France, nos mouvements et associations à faire le pas ? Comment faire face à la transition digitale, à la transition écologique ? Comment disrupter le marketing, la communication, sortir des sentiers battus ? Comment financer et accompagner la Church Tech ? Faut-il créer un mouvement de la Church Economy ? C'est ce que nous allons essayer de voir, mais aussi de penser l'économie, chrétiennement l'économie de la Church. C'est le thème du dossier de l'Écho des Solutions. Bienvenue à vous tous, bienvenue dans l'Écho des Solutions.
L'Écho des Solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Écho des Solutions. En ce samedi 10 juin, aujourd'hui, nous allons évoquer la Church Tech. Comment penser chrétiennement la tech, l'économie de la tech ? C'est ce qu'on va voir avec nos deux invités. Pierre Macaire, président justement du mouvement et de l'écosystème Church Tech, qui tiendra le 14 juin prochain un événement au Collège des Bernardins qui s'appelle Pitch My Church et dont nous sommes avec RCF les partenaires. Et puis Karine Forêt, c'est une femme de la tech, elle est vice-présidente des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et avec elle, eh bien, nous verrons aussi comment, en tant que dirigeante d'une entreprise de la tech, eh bien, on se positionne quand on est chrétien. Comment aujourd'hui on peut embaucher, réformer peut-être des nouvelles technologies. Enfin, on verra ça, tout ça, avec nos invités dans le dossier de l'Écho des Solutions d'ici une petite vingtaine de minutes. Au sommaire de cette émission, eh bien évidemment, Pierre Collignon, qui est remplacé cette semaine par Nicolas Masson, et la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Maxime Dupont et un Max Déco à la fin de cette émission. Nos 7 minutes pour changer le monde, nous partirons sur un terrain de football à la rencontre de jeunes footballeurs qui, à chaque fois qu'ils gagnent un match, vont planter un arbre, un défi lancé par le club à la mairie, défi que la mairie a accepté. On verra tout ça à la fin de cette émission. Mais comme toutes les semaines, eh bien, vous le savez, on commence avec l'invité éco de cette semaine. Il s'agit de Jean-Marie Destré, délégué général de la Fondation Caritas, qui lance une action qui s'appelle Acteurs en transition. On en apprend plus d'ici quelques instants avec notre invité éco de cette semaine.
L'invité éco, Patrick Longchamp.
Voilà, je suis donc avec notre invité éco de cette semaine, avec Jean-Marie Destré, de la délégué général de la Fondation Caritas. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans l'Écho des Solutions. On va parler de la Fondation Caritas, mais pas que de la Fondation Caritas, mais de son nouveau projet Acteur en Transition qui accompagne 8 associations sélectionnées parmi 50. Autant dire que le choix fut drastique. La Fondation Caritas, c'est une fondation abritante. C'est 1200 projets soutenus, 100 fondations abritées, 52 millions versés à différentes associations depuis sa création. Le Secours catholique, puisque la Fondation Caritas est aussi adossée au Secours catholique, avait besoin d'un nouvel outil quand vous l'avez créé. Je rentre un petit peu dans la genèse de la Fondation. Elle, qui a tellement d'outils, lui fallait un outil comme une fondation pour continuer son action auprès des plus pauvres.
Mais écoutez, il y a 14 ans, j'ai proposé au Secours catholique de créer cet outil. Mon intuition était que cet outil permettrait à des individus, des familles, d'avoir une philanthropie qui soit plus sur mesure, c'est-à-dire que plutôt que de faire un beau chèque à l'association, ce qui est très important et ce qu'il faut continuer à faire, mais là, il y a des familles qui sont prêtes à s'engager de manière probablement plus généreuse, mais elles ont le souhait d'être un peu des donateurs, c'est-à-dire d'être plus impliquées dans le choix des projets qu'elles vont soutenir et puis de connaître ces projets, de les accompagner dans la durée. Et donc, le fait de créer une fondation abritante qui permet en son sein de regrouper toute une série de fondations créées par des individus, des familles, mais aussi par des congrégations religieuses ou des entreprises ou des associations. Ici, on va plus parler des familles. C'est un outil qui donne une visibilité à la générosité familiale, qui permet de réunir autour de la table les membres de la famille, de décider ensemble des projets que l'on va soutenir. Et puis, bien sûr, la fiscalité est assez intéressante,
bien sûr,
puisque la fiscalité dont va bénéficier cette fondation familiale est celle qu'a obtenue la fondation Caritas reconnue.
Alors, on va parler de ce projet, de cet appel à projet qui est né, appel à contribution. Vous avez, il y a quelque temps, lancé un appel en disant, voilà, nous, on souhaiterait, en tant que fondation, pouvoir accompagner 8 associations pour les aider, les incuber, les aider financièrement, mais pas que, je crois, afin de pouvoir travailler sur la question de la transition, acteurs en transition. Donc, c'est 8 associations. Comment est née cette idée, ce projet, Jean-Marie ? Dans quel contexte ?
Parce que nous sommes des acteurs de la lutte contre la pauvreté d'abord, mais on sait, quand on réfléchit au problème de la transition écologique, on sait que, bien sûr, partout dans le monde, mais en France aussi, les plus pauvres sont les premières victimes des réchauffements climatiques et de la transition écologique. Mais on s'est dit, ces personnes les plus fragiles, les plus pauvres, ce sont elles qui polluent le moins. Ce sont elles qui ont des vies relativement sobres et économes en carbone. Et donc, c'est une sobriété
imposée,
toute notre société.
Contrainte.
Voilà, c'est une sobriété qui est subie, mais néanmoins, notre société est appelée à retrouver une forme de sobriété. Donc, nous avons choisi de mettre à l'honneur, au travers de 8 associations qui travaillent dans le retour à l'emploi des personnes très éloignées de l'emploi, avec des projets qui toutes apportent une réponse aux enjeux écologiques. Mmh. Et notre pari, c'est que ces personnes les plus fragiles de notre société sont aussi capables d'être des acteurs de la solution dans différents domaines.
Alors justement, 8 associations parmi 50, il a fallu faire des choix. Ces choix ont dû être compliqués. Est-ce qu'il y avait des critères particuliers pour choisir ces 8 associations, Jean-Marie ?
Oui, nous avons travaillé avec des associations que nous avions déjà financées par le passé. Et nous avons aussi choisi de soutenir des structures qui ont une capacité de déploiement de leurs solutions. Mmh. Je vais prendre un exemple pour que ce soit plus concret. Nous soutenons une association qui s'appelle Carton Plein, Nous avons été, qui a une petite dizaine d'années, nous avons été à la fondation, nous avons aidé cette structure quand elle a son tout premier démarrage. L'intuition initiale était avec des personnes sans domicile fixe, de ramasser les cartons qui encombrent les trottoirs parisiens qui sont mis par des commerçants et d'aider ces commerçants à je dirais, se débarrasser de ces cartons et après redonner une seconde vie à ces cartons. Au fil des années, cette association Carton Plein s'est développée et aujourd'hui, ils ont tout un volet qui est celui de la cyclo-logistique décarbonée, parce qu'elle se fait à vélo. Et donc, des personnes sans domicile qui disposent de dispositifs de travail de quelques heures par semaine vont bien sûr continuer à collecter les cartons, mais aussi rentrent dans la chaîne de la livraison du dernier kilomètre pour des entreprises qui elles aussi doivent décarboner leur livraison. Et donc, il y a un nouveau métier qui émerge, celui de la cyclo-logistique. Ceux qui habitent Paris se rendent compte qu'on voit de plus en plus ces vélos avec des carrioles derrière
Absolument, oui.
qui viennent faire des livraisons. Et là, ce projet, il est formidable parce que ces personnes qui font ces livraisons à vélo, ce sont des personnes en très grande précarité, mais qui retrouvent un cadre, une communauté de travail et des petit à petit des revenus et une santé aussi en faisant ce travail.
Donc huit associations qui vont être accompagnées, à la fois financièrement, bien évidemment, mais pas que. Vous mettez aussi à disposition de ces associations de quoi les accompagner. On sait bien que dans le monde associatif ou de l'entrepreneuriat social, il y a deux questions qui se posent, la trésorerie et la croissance, parce que les deux doivent se financer, la pérennité doit se financer et la croissance doit aussi se financer. Vous les accompagnez aussi sur ces questions-là
Tout à fait.
de stratégie, de mesure d'impact.
Voilà, nous apportons une aide financière de 45 000 euros par an pendant 3 ans. Ce qui est intéressant de noter, c'est que
C'est
cette
la
aide
durée.
financière, elle est rendue possible par des fonds propres, donc donnés par les donateurs de la Fondation Caritas. Deuxièmement, par les fondations familiales que nous abritons, qui sont contributrices et qui apportent aussi un tiers des fonds. Et nous avons un dernier tiers qui est apporté par un grand mécène. Et nous sommes très heureux que cette année, ce grand mécène, c'est une congrégation religieuse qui avait des excédents financiers et qui a décidé de s'inscrire dans ce projet. Donc une aide financière, 45 000 euros non fléchés par an pendant 3 ans, et un deuxième volet, effectivement, qui est celui de mettre à disposition du conseil avec une belle association comme Passerelle et Compétences qui va faire du bénévolat de compétences, mais aussi des cabinets spécialisés qui peuvent aider les associations à faire des diagnostics stratégiques ou des études d'évaluation d'impact, ce qui les aide à justifier de leur utilité sociale et à trouver d'autres financeurs, qu'ils soient publics ou privés.
Merci beaucoup Jean-Marie Destrée d'avoir été notre invité écho de cette semaine. Nous on retrouve tout de suite Nicolas Masson qui remplace Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
Voilà, ce n'est donc pas Pierre Collignon qui s'y colle cette semaine puisqu'il a pris quelques jours de vacances, mais il s'agit de Nicolas Masson qu'on avait déjà entendu dans cette chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens et je suis très heureux de le saluer. Bonjour Nicolas.
Bonjour Patrick.
Merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir pris le relais de Pierre Collignon. Alors cette semaine, vous souhaitez réfléchir avec nous à la question de la foi chrétienne est-elle un fardeau pour un chef d'entreprise? En effet, tout cela s'enracine dans une rencontre d'il y a quelques jours d'un de vos amis, lui-même chef d'entreprise, qui vous faisait part de sa surprise quand une de ses relations professionnelles non croyantes l'avait plaint d'avoir la foi. Dans son esprit, la foi avait été un fardeau pour l'exercice de la responsabilité du dirigeant. Étonnant, non?
Oui, Patrick, cette remarque m'a touché. La foi chrétienne serait-elle qu'une somme de lois que nous imposerait un Dieu que l'on dit aimant, mais qui serait surtout exigeant et tout-puissant? Pour bien diriger, faut-il se débarrasser de sa foi, ou à la rigueur être capable de la laisser chaque matin chez soi pour la retrouver intacte le soir? La foi rajouterait-elle une couche de contrainte? Respecter la dignité de tous? Partager les résultats, ne pas mentir. Si c'était à cela que pensait l'interlocuteur de mon ami, je lui dirais qu'il s'agit de morale et non de foi, et que la morale n'est pas réservée aux hommes de foi, mais qu'elle oblige tous les hommes de bonne volonté. Mon ami fut surpris et répondit à son interlocuteur que vivre sa foi dans son entreprise n'était pas du tout un fardeau. Bien au contraire, sa foi, ou plus précisément, la présence du Christ auprès de lui le libère. Elle l'aide à décider dans les contradictions qui sont au cœur de la vie de son entreprise.
Alors, en quoi, Nicolas, les EDC sont-ils témoins que la foi n'est pas un fardeau ou une forme de masochisme ou encore un anxiolytique qui permettrait de tout supporter, mais plutôt comme une relation qui libère ?
Premièrement, la foi nourrit en nous le désir d'un meilleur possible. Il ne s'agit pas de construire un monde idéal, mais d'introduire au milieu des contradictions que nous vivons au quotidien une nouvelle mesure, une nouvelle inspiration, celle de l'amour. C'est ce que nous dit le psaume 18. La foi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie, la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les saints. Deuxièmement, la foi purifie notre désir afin qu'il ne s'enferme pas dans la jouissance. La volonté de puissance, le besoin d'être admiré, l'amour et la proximité du Christ nous libèrent de ces pièges. Troisièmement, elle nous protège du risque d'agir pour agir et d'être comme des écureuils dans leur roue dont le seul but est de faire tourner la cage. Enfin, la foi nous aide à chasser les pièges du conformisme, des modes, des impératifs sociaux.
Alors en conclusion, Nicolas, est-ce qu'on peut dire, et vous allez peut-être me dire le contraire, que la foi n'est pas un fardeau, mais une forme de contemplation ?
Absolument. Elle fait croître notre désir d'agir pour faire vivre, faire grandir, rendre plus beau et répondre à la parole du Christ « Je suis la vérité et la vie ». La foi est une force. Elle nous met en action et cette action est aussi un combat, car le chrétien est témoin d'une espérance. Et il est aussi signe d'une contradiction.
Merci beaucoup Nicolas Masson. Nous, on se retrouve tout de suite après cette pause musicale avec tous nos invités pour évoquer la question suivante. Comment penser chrétiennement la tech ? Quel levier éthique ? Qu'est-ce que ça veut dire quand on est dirigeant ? Comment on anime un réseau de church tech ? C'est ce qu'on va voir d'ici quelques instants. Merci encore Nicolas. Une pause musicale et on se retrouve tout de suite après.
Et tandis que ça ferme le monde à faire qu'on s'obstine à confondre ce qu'on sait, ce qu'on croit. Je m'accroche à toi.
C'était le groupe Open sur RCF qui nous interprétait « Tant pis ». Nous, on retrouve nos invités du dossier de l'éco des solutions. On parle de tech, on parle de penser chrétiennement, l'économie de la tech, avec Pierre Macaire et Karine Forêt. Ils sont là, ils nous attendent. Alors, il ne reste plus qu'à pousser la porte pour les retrouver.
L'éco des solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, il est donc temps d'ouvrir le dossier de l'écho des solutions de cette semaine, un dossier de l'écho des solutions qui est consacré à la tech. Comment penser chrétiennement l'économie de la tech, de ces nouvelles technologies? Deux grands événements vont avoir lieu, les deux en particulier parce qu'ils sont importants dans notre écosystème. Le premier, c'est la grand-messe qui va s'ouvrir dans quelques jours à la Porte de Versailles puisque VivaTech reprend place Porte de Versailles. Et puis Pitch My Church, qui permettra de réunir tout l'écosystème de la tech chrétienne. Et ça aura lieu le 14 juin au Bernardin. Et on est très heureux d'ailleurs avec RCF d'en être les partenaires. Et dans cette émission de l'écho des solutions, on va recevoir deux invités. L'une est une femme de la tech, et je le souligne parce que c'est assez rare d'avoir des femmes qui sont engagées dans des métiers des nouvelles technologies. Il s'agit de Karine Forêt, qui est vice-présidente des EDC, qui a créé une entreprise qui s'appelle CardiWeb, dont elle a été à la tête pendant un certain nombre d'années. Bonjour Karine.
Bonjour Patrick, enchanté, ravi d'être avec vous.
Merci beaucoup. Avec vous, on verra justement comment quand on est chrétien, on est dans ce milieu de la tech qui évolue de jour en jour, quasiment du jour au lendemain, de nouvelles choses apparaissent. Il faut savoir les traiter, les analyser, se dire peut-être, se questionner sur ce qui est bon ou sur ce qui est mauvais. Enfin, en tout cas, vous nous éclairerez sur cette question. Et puis, avec nous aussi, Pierre Macaire est le président de Church My Tech, c'est lui qui accompagne justement ce projet de Pitch My Church. Bonjour Pierre.
Bonjour Patrick, bonjour Karine, ravi d'être avec vous également.
Merci beaucoup donc d'être avec nous Pierre. On va évoquer avec vous, vous êtes aussi COO, c'est-à-dire directeur des opérations de Heaven, qui est une application de rencontres chrétiennes, comme quoi on peut travailler dans ce monde de la tech pour l'Église et pour les chrétiens. Je vais peut-être commencer par une question un peu basique, hein, je le disais à l'instant, la tech est de plus en plus présente dans nos vies, dans notre quotidien, peut-être trop présente parfois. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire, est-ce que vous pensez, vous, aujourd'hui, que la tech vous vole votre temps, Karine, par exemple?
Alors, on peut dire oui, la tech me vole beaucoup de temps puisque c'est mon métier et je passe beaucoup, beaucoup de temps à réfléchir à des problématiques techniques, mais elle me fait gagner aussi beaucoup de temps. Et elle me met en lien avec des personnes desquelles j'étais éloignée, elle me permet de faire plein de choses que je ne pourrais pas faire. Donc, c'est à la fois une joie et en même temps un esclavage, c'est vrai.
Ouais, il y a une forme d'esclavage. Et vous, Pierre, vous avez l'impression qu'elle vous vole votre temps? Moi, elle me le vole parce que j'ai plus le temps de lire, par exemple.
Et bien, sur cet aspect, je vous rejoins. En fait, en ce qui va concerner les loisirs, j'aurais envie de dire que ça me vole du temps. Par contre, comme le dit Karine, ça me fait gagner un temps fou aujourd'hui.
Du point de vue professionnel,
numérique. Ouais. D'un point de vue professionnel, d'un point de vue organisationnel, même à titre privé. Par contre, c'est quand on va passer sur la sphère privée que là, effectivement, ça peut nous accaparer pas mal et trop et aux dépens du réel et aux dépens des relations sociales, malheureusement, oui.
Alors, comme on est dans une émission qui tourne autour de la tech et qu'on va réfléchir un petit peu sur ce positionnement de l'Église face aux nouvelles technologies, de ce positionnement des chrétiens face à ce métier de la tech, des choix technologiques qu'il faut faire ou ne pas faire, je dois vous avouer, mais je le mentionnerai à chaque fois, que j'ai questionné ChatGPT sur que dire à des dirigeants des nouvelles technologies pour penser chrétiennement la tech. Donc de temps en temps, une petite question de ChatGPT sortira au cœur même de cette interview. Mais comme je suis éthique, je préciserai que cette question n'est pas de moi, mais bien d'un organe d'intelligence artificielle. Et je peux vous assurer que c'est assez pertinent d'ailleurs. On va commencer peut-être avec vous, Pierre Macaire. Vous portez la question de la Church Tech. La Church Tech, c'est cette structure qui aujourd'hui, comme la French Tech, regroupe les acteurs de la tech engagés dans l'Église. Comment s'est constituée cette Church Tech? Il y a eu un moment où vous vous êtes dit il y a plein d'opérations, d'idées, de start-up isolées, il faut les regrouper.
Exactement, c'était ça le concept. C'était en 2016. En fait, l'association, elle s'appelle Église et Innovation Numérique. Et en fait, elle avait voulu répondre, on va dire, à l'appel du pape François qui disait « N'ayez pas peur de devenir des citoyens du territoire numérique ». Et à cette époque, commençaient à émerger des premières startups chrétienne. Et entre eux-mêmes, ils ne se connaissaient pas et ils n'étaient pas connus du grand public. Et l'idée était alors de se réunir, de mettre leurs idées, leurs compétences, leur réseau en commun pour se pousser. Et en fait, quand on dit un chrétien isolé est un chrétien en danger, et bien là, pareil, le fait de s'associer, ça nous donne plus de visibilité, plus de légitimité, et c'est ce que fait aussi la French Tech. Donc là, c'est un clin d'œil, c'est la Church Tech. Et la Church Tech, ça regroupe les projets qui sont au service de la mission, qu'elle soit au service de la foi, de l'Église ou des croyants. De la foi, ça peut être le réseau de prière Hosanna avec 1 million de membres. Ça peut être Light in the Dark qui fait de l'évangélisation en ligne. Au service de l'Église, ça peut être comme l'application comme La Quête, ça peut être Credo Funding, le financement participatif chrétien, et puis au service des croyants, ça peut être par exemple Ephata, l'hospitalité chrétienne. Donc voilà, donc tous ces projets sont regroupés au sein de la Church Tech, il y en a une petite quarantaine actuellement, et l'objectif de Pitch My Church, c'est de réunir tout ce monde-là, et pas seulement les projets tech, mais aussi les curieux, les geeks, toute l'Église, histoire de fédérer encore une fois tout cet écosystème.
Est-ce que vous avez aussi pour mission d'aller voir les investisseurs? On sait bien que quand on est chrétien, qu'en plus on crée des applications à destination de la communauté et des communautés chrétiennes, hein, qu'elles soient catholiques, protestantes ou autres, c'est peut-être moins bankable pour les investisseurs. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on accompagne cet écosystème à pouvoir se financer pour pouvoir pérenniser son action?
Alors, on n'accompagne pas pour la recherche de financement. Par contre, on connaît les acteurs qui investissent, les acteurs qui financent, et on peut les envoyer vers les bonnes personnes. Mais nous, directement, on n'accompagne pas à la levée de fonds.
Oui, non, mais j'ai bien compris. Mais en quoi l'écosystème peut-il accompagner justement ces entreprises? Alors, certaines, vous le dites, elles ont 1 million de membres, d'autres sont encore en devenir, et il faut à un moment donné pouvoir les orienter justement vers ceux et celles qui vont pouvoir les aider à investir.
Oui, tout à fait. Mais ça, en fait, dans le milieu chrétien qui n'est pas infini, les gros invests sont malgré tout assez connus. Et s'ils ne le connaissent pas, nous, on peut faire les mises en relation. Après, les investisseurs qu'on va chercher quand on est une entreprise de la tech chrétienne, ben souvent, on a envie que les investisseurs soient alignés avec ses propres valeurs. Donc ça élimine tout un tas d'investisseurs tout à fait classiques. Et donc ça, c'est la problématique. Il y a moins d'investisseurs. Par contre, les investisseurs qui vont investir, s'ils investissent sur votre projet, bien évidemment, et puis après, si c'est des plus petits investisseurs, il peut y avoir un appel à la communauté. Et là, le fait que vous fassiez partie de la même communauté, ça crée de la confiance et les gens ont envie d'adhérer, ont envie de participer, ont envie d'investir dans le projet.
Est-ce que la communauté, la Church Tech, c'est une communauté extrêmement solidaire? Est-ce que quand les uns ont des problèmes, les autres répondent présents?
Alors, oui. Et en fait, les différents membres se connaissent. On est dans une même messagerie, un Slack, où tout le monde peut échanger, tout le monde peut partager les bonnes nouvelles, les moins bonnes. Il y a beaucoup de questions qui doivent être posées et de personnes qui répondent, qui répondent présents, qui répondent, qui donnent leur avis, qui donnent même parfois leur bout de code quand ils ont des bonnes astuces. Mm-hmm. Donc oui, c'est assez chouette.
Bien, c'est chouette. Karine Forêt, je précise pour nos auditeurs que vous êtes protestante, mais le pape François, Benoît XVI se sont prononcés sur cette question de la technologie. Le Benoît XVI disait il y a quelques années, l'Internet, c'est pas simplement une nouvelle culture, c'est un nouveau continent qu'il faut évangéliser. Est-ce que vous avez le sentiment, en travaillant au cœur même de la tech, que c'est un univers à évangéliser? Alors, pas forcément à convertir, mais à évangéliser.
Oui, en fait, beaucoup de textes chrétiens, et les différents papes ont beaucoup écrit sur cette difficulté de penser en chrétien l'économie et avec une grosse, de plus en plus de technologies présentes dans notre économie. Et en particulier aux EDC, on a une équipe qui a produit un travail de synthèse très intéressant autour de ce qu'est justement la pensée sociale chrétienne et la place de la technologie dans la pensée chrétienne. On a édité 6 livrets, dont un parle beaucoup de ça, et c'est le livret qui porte sur la dignité de l'homme. En fait, il est dans la dignité de l'homme d'apporter une dimension morale à la technique et d'en orienter l'usage. C'est ce que nous enseigne aussi la parole. En fait, nous, les techs, on doit apprendre à penser la technique en veillant vraiment à ce qu'elle serve le développement humain, à ce qu'elle serve la morale et à ce qu'elle soit bien utilisée. Mmh. On a vite tendance à vouloir en faire quelque chose d'orgueilleux, qui va nous mettre en valeur, qui va nous faire devenir la plus grosse entreprise du monde, la World Company. Et en fait, non, la pensée sociale chrétienne nous rappelle que le progrès technique, en fait, il peut pas constituer une fin en soi, il peut pas être au service d'un seul ou d'une seule, mais qu'il doit être au service du bien commun, que chacun est invité à s'assurer que les évolutions de technologie restent bien au service de la dignité de chaque homme. Et qu'en fait, le progrès, ce soit d'abord un progrès humain. Mmh. C'est ce que dit souvent, c'est ce que dit le pape dans Laudato si, c'est ce que dit Benoît XVI aussi dans Caritas in Veritate. Et les entreprises ont un vrai rôle à jouer dans le respect de cet impératif parce que elles-mêmes, elles ont un impact sur l'environnement, sur l'homme, et c'est principalement dans l'entreprise qu'on grandit, qu'on évolue. Et donc, si la tech est là pour nous rendre dépendants, perdre notre joie au travail, eh bien, elle ne sert pas l'homme.
Elle ne sert pas l'homme. Alors justement, vous avez travaillé dans la tech depuis un certain nombre d'années. Vous l'avez vu évoluer. Je disais tout à l'heure en introduction que chaque jour, on peut voir apparaître de nouvelles lignes de code, de nouvelles technologies. On n'a pas évoqué les deux grands acteurs qui veulent révolutionner, qui par la tech veulent révolutionner le monde. Hein. Google veut vaincre la mort et Elon Musk veut envoyer tout le monde sur Mars. Comment est-ce que justement vous, en tant que vice-présidente des entrepreneurs et dirigeants chrétiens et en tant que chrétienne surtout, Karine Forest, vous avez vu évoluer ce contexte et est-ce que vous avez été obligée, vous, à partir de votre foi, de ce en quoi vous croyez, de repenser votre manière de travailler, vos stratégies technologiques, vos stratégies simplement d'entreprise?
Oui, la tech, il faut voir qu'il y a eu une évolution fulgurante depuis une cinquantaine d'années sur toutes les technologies, déjà les technologies de l'information bien sûr, mais aussi les biotechnologies, aussi toute la science, la médecine. Et en fait, ce à quoi on assiste, c'est à une révolution parce que on est en train de mélanger toutes ces compétences pour exploiter toutes les progrès de toutes les disciplines de l'ingénieur, les disciplines de la médecine, les disciplines de la mécanique, enfin ça c'est de l'ingénieur, les disciplines de la communication. Elles sont en train de mettre le meilleur d'elles-mêmes dans des solutions extrêmement nouvelles. Donc on va assister à des nouveaux modèles économiques, à des nouveaux, à l'arrivée de nouveaux produits, et on va pouvoir réaliser des rêves, par exemple celui d'Elon Musk. On va pouvoir réaliser des rêves. Donc la question, effectivement, moi je me la suis posée dans mon métier. Nous, notre métier, c'est de concevoir des applications mobiles et des sites web, donc c'est un métier assez simple, mais qui utilise de plus en plus de technologies pointues. Et la question qu'on se pose, c'est comment on fait aujourd'hui pour que ces technologies et ces applications qu'on développe pour nos clients servent vraiment l'homme. Est-ce que on va aller vers de plus en plus d'automatisation des développements et donc de moins en moins de développeurs?
Avec le fameux no-code qui est au cœur aujourd'hui, on en voit de plus en plus passer de ces logiciels qui permettraient à tout à chacun, enfin ceci étant j'ai essayé, j'y suis pas arrivé, de programmer avec du no-code, mais ce qui nécessite en fait de mettre des briques les unes sur les autres, un peu comme on a aujourd'hui du Canva ou du InDesign.
En fait, c'est ça. Le no-code arrive en force. On va pouvoir faire tout un type d'application avec, mais on va encore conserver le code pour certaines autres sortes d'applications. Mmh. Et ce qu'on voit surtout, c'est qu'on va multiplier les spécialités. On a vu en 30 ans un nombre de métiers arriver. Qui étaient en fait des sous-disciplines du même discipline. On a à la fois besoin d'hyper spécialistes d'un domaine, par exemple des hyper spécialistes sur la donnée, sur la data, la gestion de la data, des spécialistes sur le développement du côté serveur ou alors du côté interface utilisateur, donc des UX designers, c'est-à-dire des personnes qui vont réfléchir aux usages. Donc pour une même application, maintenant on va voir à peu près une dizaine ou une quinzaine de métiers s'exercer, et en même temps on a besoin de généralistes, de personnes qui savent vulgariser pour le client final et les technologies, comprendre le besoin du client final et puis penser une application utile et facile à utiliser, et en même temps qu'ils savent parler à 10 spécialités techniques pour que chacun puisse donner le meilleur de ce que sa technicité apporte. Donc c'est pour ça qu'on a à la fois besoin de progresser dans la connaissance pointue tout en restant des généralistes. Donc c'est assez passionnant comme défi.
Pierre, justement, vous écoutez ça, alors vous avez une double casquette, hein, vous pilotez ChurchMyTech, mais en même temps vous êtes directeur des opérations de Haven, qui est cette application de rencontre chrétienne. En tant que directeur des opérations, ce que vient de dire Karine Forest, ça résonne chez vous ?
Ah oui, tout à fait. Comme le dit Karine, le nombre de spécialités, de sur-spécialités a cru, ces derniers temps, et jusqu'à même maintenant, c'est amusant, on lit des personnes qui seraient spécialistes dans les prompts ChatGPT, parce que ChatGPT, il faut lui parler. Il faut bien introduire le contexte, et donc on arrive maintenant à ce genre d'expertise. Bon, oui, en fait, il faut des profils généralistes, mais en fait, ça va être un peu comme des chargés de projet, des profils généralistes qui comprennent, mais qui se déchargent sur des spécialistes. C'est exactement comme en médecine où le médecin généraliste maîtrise la chaîne globale, mais est capable de parler aux spécialistes, mais le spécialiste d'organes va traiter le problème d'organes. Je pense que c'est le comparatif est le même. Mmh. Et donc, chez Haven, forcément, en tant que directeur des opérations, je suis pas spécialisé en UI UX, donc là tout ce qui est gestion des interfaces utilisateurs et de l'expérience utilisateur, mais on a quelqu'un en interne qui fait ça, et donc il y a des échanges qui se font entre chef de projet, UI UX. Et puis développeurs. Oui.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui, qu'est-ce qui ferait la différence pour vous entre un geek et un catho-geek, Pierre Marquer?
Alors le geek, pour moi, le geek, c'est la personne qui aime bien l'informatique, qui éventuellement va faire un petit peu de code de temps en temps. Ça a été mon profil pendant longtemps, où je faisais ça à côté de mon exercice, parce qu'avant de faire ça, en fait, moi, je suis médecin. Et donc j'aimais bien l'informatique, j'aimais bien la tech, et je codais de temps en temps des petits sites internet. Donc ça, c'est juste le geek. Et puis on va dire, je suis passé de l'autre côté, catho geek, où désormais j'ai mis mes compétences que je pouvais avoir au service donc de l'Église au sens large. Mmh. En fait, je pense qu'on est tous amenés à d'évangéliser, mais on n'est pas capable de tous le faire de la même manière. Moi, je suis complètement incapable, je serais complètement nul et contre-productif sans doute d'aller dans la rue et de parler de Jésus. Je sais pas faire, c'est pas mon charisme. Par contre, la tech, c'est quelque chose que j'aime bien, et donc c'est concilier le goût de l'entrepreneuriat et la volonté d'évangéliser qui m'a amené à être ce qu'on appelle un catho-geek, comme vous le dites. Voilà.
Mais vous auriez pu aussi aller vers la tech for good dans le domaine médical. On sait combien aujourd'hui il y a besoin de développer de nouvelles applications. On en a évoqué quelques-unes sur cette antenne, et qui auraient pu aussi apporter une pierre à l'évangélisation par le biais de trouver des solutions technologiques geek à des problématiques de santé et de santé publique.
Oui, tout à fait. Et de toute façon, il y a des problématiques un peu partout. Un petit peu pour tout. Il faut choisir celle qui nous drive. Devenir un catho geek ou un geek catho, c'était pas parce que je cherchais un sens à ma vie. J'avais un sens dans ma vie, dans mon métier précédent. Mais c'était quelque chose qui me drivait particulièrement avec un ami d'enfance. Et puis sans doute aussi que j'étais célibataire et catho et et qu'il y avait rien qui correspondait à mes attentes sur le marché. Et je me suis dit, allons-y, go.
Allons-y. Et alors, ça a marché ?
Et ça a marché. J'en ai rencontré une, je me suis marié.
C'est bien, parce que c'est important d'avoir aussi le résultat et de prouver que la promesse existe bien et elle est vérifiée. Karine Forêt, les nouvelles technologies vont très vite, on le disait. Vous disiez que vous aviez sorti avec les entrepreneurs et dirigeants chrétiens un document sur cette question des nouvelles technologies, en tout cas plus large que les nouvelles technologies, mais qui s'y réfère beaucoup. Autant sur la question de la robotique, il y a eu la théorie ou la charte de Huxley qui donne des choses précises, autant sur les nouvelles technologies, est-ce qu'aujourd'hui il y a des chartes éthiques qui existent dans ce domaine-là qui permettrait de ne pas faire tout et n'importe quoi avec le code, parce qu'on sait bien que dans un code, il y a une partie qui peut être extrêmement bonne et une autre qui, si elle est détournée, un peu comme tout progrès, hein, quel qu'il soit, peut être néfaste pour la société. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des règles éthiques qui encadrent un peu ce domaine du code, ce domaine des nouvelles technologies ?
Alors, en fait, il y a différentes réglementations, dont le RGPD, hein, le fait de
le
ne
RGPD,
pas exploiter.
Absolument.
Ça, c'est un exemple de réglementation qui fait que on ne va pas exploiter la donnée de l'homme pour lui nuire ou pour commercialiser ses informations. Et ça, c'est vrai que l'Europe est très en avance par rapport à beaucoup d'autres pays sur ce type de réglementation. Et ça, c'est une règle éthique. Sinon, je dirais que les règles éthiques de conduite dans les affaires ou les règles éthiques, et pour nous, les chrétiens, bah, c'est la pensée sociale chrétienne, s'appliquent absolument au sujet de la technologie. Donc déjà, la dignité de la personne, que la technologie serve l'homme plutôt que de la servir. Le progrès technique, il est vraiment inhérent de tout temps à l'activité humaine. Il est en fait, l'homme a toujours marché et s'est toujours motivé, a toujours voulu maîtriser la matière par son esprit, le dominer pour se rendre moins esclave des choses, et c'est vraiment inhérent à son être même. Et l'usage de la technique, par cet usage, on recherche à réduire les risques, on recherche à économiser nos forces, on recherche à préparer à réparer les hommes. D'ailleurs, on y arrive. Il y a dans un très très bon livre de Thierry Magnin qui s'appelle Penser l'humain au temps de l'homme augmenté. Mmh. Il parle de l'homme réparé. Aujourd'hui, on a des bras bio-ioniques, on a des jambes bio-ioniques. On a donc en fait le progrès technique qui est vraiment inhérent à l'activité humaine pour réparer l'humain déjà. Et donc ça, c'est éthique de se servir d'abord de la technique pour faire du bien aux hommes. La technique peut aussi représenter un risque. Et là, c'est notre conscience, c'est notre sens éthique qui nous fait, nous, dirigeants, faire les bons choix. Dans certains cas, ça peut être notre allié, la technique, mais ça peut vraiment devenir notre adversaire. Par exemple, la mécanisation du travail, quand elle supplante l'homme, quand elle lui ôte toute sa satisfaction au travail, quand elle lui ôte sa joie, quand elle l'empêche de sortir de son cadre, de créer pour lui la servir à des tâches répétitives, quand elle lui coupe toute initiative de création, justement, ou même quand elle supprime l'emploi de millions de personnes sans en recréer à côté, ça, c'est d'un point de vue éthique, ce sont des questions que nous, les dirigeants chrétiens, on se pose et auxquelles parfois on a à faire face. Un progrès technologique qui est intégré dans une entreprise et qui va couper des emplois, on a des vrais débats éthiques
pour pouvoir répondre à ça. On arrive au terme, j'aurais aimé pouvoir continuer des heures encore à échanger avec vous deux, et j'ai posé aucune question de ChatGPT. Certaines, je les avais écrites, mais j'en ai posé aucune. J'en ai une autre qui me vient à l'esprit. Dans les nouvelles technologies, il y a de nouvelles technologies financières qui arrivent, qui sont là depuis un certain moment. Je pense à l'ensemble des crypto-monnaies, je pense au blockchain, je pense aux NFT, qui sont ces actes de propriété numérique. On a fait des émissions sur le sujet déjà. Est-ce que, Pierre, vous les voyez apparaître, ces questions-là, aujourd'hui, dans l'écosystème de la Church Tech ?
Non, pas réellement. Il y a eu quelques interrogations dessus, quelques sujets dessus. Mais non, on ne les voit pas trop voir. On les a vus arriver, on les a vus éclater. Ça va sans doute revenir. C'est des sujets un petit peu à la mode. Et puis en ce moment, c'est moins la mode, c'est le bore-out. Les cryptos ne valent pas très cher.
C'est ça.
Et je pense que ça reviendra à l'occasion. On entendait parler de crypto, éventuellement de crypto chrétienne. Je pense que ça arrivera. Ouais. Mais pour l'instant, non. C'est pas un sujet.
C'est pas un sujet pour le moment. Allez, je vais vous poser quand même une question ChatGPT, quand même, histoire d'en avoir au moins une pour clore. Ce sera la même pour vous deux. Donc, question ChatGPT. Attention, c'est pas moi qui l'ai écrite. Quelles sont vos aspirations et vos objectifs à long terme en tant que dirigeant chrétien dans le domaine des nouvelles technologies, et comment espérez-vous faire une différence positive dans le monde à travers votre travail? Dernière question, vous avez moins d'une minute chacun pour y répondre.
Alors, comment faire le... À travers mon travail, je pense que la première question, c'est faire le bien, se mettre au service du bien commun. Et la technologie peut nous aider parce qu'elle nous aide à collaborer. Elle nous aide à être, à mieux travailler ensemble. Et donc, si on peut déjà utiliser la tech pour mieux collaborer, pour être plus en lien, pour faire que les personnes puissent s'exprimer, quel que soit leur niveau hiérarchique, puissent vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes en s'exprimant pleinement. Mmh. C'est déjà ça que peut nous permettre la technologie. Et c'est pas facile parce que ça demande de conduire le changement
en permanence.
On va avoir beaucoup besoin de personnes capables de tenir le stylo, d'accompagner, d'amener la technologie dans les usages du quotidien pour mieux communiquer et communiquer toujours de mieux en mieux dans la bienveillance. Voilà.
Et alors pour vous, Pierre, ça vous a laissé le temps de réfléchir à votre réponse.
Oui, l'objectif, c'est, mais les mots vont être les mêmes parce que c'est l'économie du bien commun, c'est-à-dire trouver sa voie entre le modèle américain symbolisé par les GAFAM qui est devenu déséquilibré et en quelque sorte dangereux, et le modèle chinois qui pointe et qui est décidé à tout contrôler. Donc vraiment, cet objectif de troisième voie d'économie du bien commun, ça c'est hyper important dans la société, dans ma société, dans Even, le mettre en place aussi pareil la responsabilité civile, la responsabilité sociale des entreprises, c'est important. Mmh. Et puis comment est-ce que j'ai envie de réussir tout ça? C'est qu'en fait c'est de faire de l'évangélisation par la tech. Chez nous, c'est par les rencontres chrétiennes. Et en fait, aujourd'hui, les mariages de demain, c'est les mariages d'aujourd'hui, c'est l'église des demain, la vitalité de notre église. Et donc voilà, moi, si j'ai réussi ça, j'aurais réussi
l'ensemble dans vos aspirations. On redit que le 14 juin prochain, on peut encore s'inscrire, Pierre, à Pitch My Church, ou c'est complet et c'est plein?
Alors, ça se remplit bien, il reste encore quelques places, n'hésitez pas à vous inscrire. La soirée, en quelques mots, va être hyper sympa, elle va être animée par Frère Paul Adrien et par Kevin. Deux tables rondes ensuite, une sur l'influence, une sur l'entrepreneuriat, et ensuite il y aura un concours de pitch, 7 entrepreneurs qui viennent pitcher leur projet de start-up, et ensuite tout le monde descend dans la nef, il y a un cocktail avec tout le monde. Venez, vous êtes les bienvenus.
Et on recevra le lauréat des pitchers dans l'écho des solutions la semaine suivante, la semaine prochaine d'ailleurs, je vous annonce déjà, on change complètement de sujet, on reste dans la tech, mais on parlera avec une journaliste qui a fait une belle enquête sur Elon Musk, et on verra qui est ce monsieur et pourquoi aujourd'hui c'est soit un génie, soit un utopiste, soit un fou, soit un dangereux. On verra tout ça dans l'émission de la semaine prochaine. Merci à tous les deux d'avoir accepté d'échanger avec nous sur comment penser chrétiennement l'économie de la tech. Nous, on continue avec Maxime Dupont et on retrouvera tout de suite après nos 7 minutes pour changer le monde, où je vous emmènerai sur un terrain de foot parce qu'il y a des jeunes footballeurs du Nord qui replantent des arbres à chaque fois qu'ils marquent un but. C'est super comme action. Allez, Maxime Dupont, et on se retrouve tout de suite après.
Maxime Dupont.
Voilà, et c'est l'heure de retrouver Maxime Dupont pour sa chronique à Max Déco. Bonjour Maxime.
Bonjour Patrick.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, comme souvent on va dire plutôt, on va parler de transition écologique.
Oui Patrick, même si le gouvernement par son porte-parole a annoncé que l'endettement était un bien plus gros problème pour la France que le réchauffement climatique, je répète, l'endettement du pays est un bien plus gros problème pour la France que le réchauffement climatique, il n'est pas interdit, je pense, de se demander ce que pensent les citoyens des politiques environnementales. Voici donc les résultats d'une étude de l'OCDE, citée par le toujours très utile site Datagora, qui a cherché à comprendre ce qui détermine le soutien des citoyens aux politiques climatiques.
Alors, premier chiffre, le réchauffement climatique est-il un problème selon les citoyens, Maxime ?
Eh bien oui, pour les Français, mais seulement pour 81% d'entre eux. J'imagine donc que les 19% restants doivent être porte-parole du gouvernement, eux aussi. En tout cas, 77% des Français pensent que l'État devrait agir pour le climat.
Agir pour le climat, très bien, mais on commence par quoi et surtout comment on fait ?
Alors, l'étude a posé différentes questions pour savoir quelles étaient les mesures qui obtenaient le plus de soutien. On commence avec l'obligation de rénovation thermique des bâtiments d'ici 2040, qui sera soutenue par des subventions publiques. C'est la mesure qui suscite le plus d'adhésion, avec 64% de soutien.
Ouais, l'interdiction ça, Maxime, jusqu'au moment où vous êtes obligé de payer pour faire votre rénovation énergétique.
Spoiler la fin de ma chronique.
Si je spoil la fin de votre chronique, j'en suis désolé. Alors, l'interdiction des véhicules, c'est la deuxième tendance.
Ah oui, alors, l'interdiction des véhicules thermiques, on est simplement à 56% de soutien, mais à condition, bien sûr, qu'il existe des alternatives accessibles comme des transports en commun plus efficaces. On passe à des mesures qui, elles, deviennent complètement polémiques. Comment réduire la consommation des produits issus de l'élevage bovin? Et là, on a beaucoup plus d'opposition. Et enfin, opposition franche et massive lorsqu'il est question de hausser purement et simplement la taxe sur les énergies fossiles, avec cependant une petite nuance, c'est qu'il y a un plus fort niveau d'acceptabilité si ces taxes sont reversées aux plus modestes.
Alors, que penser de ces résultats, malgré le fait que j'en ai spoilé peut-être une partie ?
Oui, alors d'abord, on voit que les mesures assumées par l'État sont plus soutenues que celles qui ont un impact sur les pratiques individuelles. On en revient en fait au paradoxe fondamental qui est sous-jacent à cette crise climatique. Ça n'est pas la méconnaissance qui fait monter les degrés de réchauffement, c'est notre incapacité à en tirer les conséquences en termes de comportement et souvent de droits individuels et collectifs. Pour une raison très simple, le hiatus court terme, long terme et l'incapacité du cerveau à vouloir faire le lien en choisissant toujours la gratification immédiate contre une éventuelle récompense intangible future.
Alors, que faire, que dire ?
Eh bien oui, alors que faire ? Eh bien, selon l'OCDE, le soutien aux politiques climatiques dépend des perceptions des citoyens concernant l'efficacité en matière de réduction des émissions, leur impact distributif sur les ménages à faible revenu et l'impact direct, et c'est là que vous m'aviez spolié, sur le revenu de leur propre ménage. C'est pourquoi il convient de mieux informer les citoyens, de développer des alternatives et de redistribuer davantage les recettes de la tarification carbone. Comme vous le voyez, on peut une fois de plus nous souhaiter bonne chance.
Merci Maxime. Eh bien écoutez, on vous souhaite une bonne chance pour le week-end et puis on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À bientôt Maxime. Nous on continue tout de suite avec nos 7 minutes pour changer le monde et je vous emmène sur un terrain de foot.
7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions.
Voilà, et on est avec notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Il s'agit de Bernard Normani. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes l'un des dirigeants, l'un des porteurs du projet d'un club de football, l'Olympique Sancerrois, un club de football amateur. Il y en a tellement en France qu'on ne saurait peut-être pas tous les dénombrer. Et vous avez été l'un des lauréats des trophées Philippe Seguin, remis par la Fondation du football dans la catégorie santé et environnement. D'ailleurs, vous en avez été le grand prix pour une idée finalement assez simple, qui était de lancer un défi à votre mairie, qui était de dire, allez, je vais spoiler un petit peu notre échange, de dire à la mairie, allez, on y va, à chaque fois qu'un de nos petits met un but, ou gagne un match, pardon, vous allez planter un arbre sur la commune ou sur nos terrains de sport. C'est ça l'idée au départ que vous aviez eue avec la mairie, Bernard ?
Oui, oui, c'est tout à fait l'idée. Lors de l'Assemblée Générale du club, au mois de décembre donc 2021, oui, on a lancé un défi à la mairie et au conseil départemental, représenté par par M. Beauchamp, représentant local du conseil départemental. Et on leur a demandé, voilà, si on comptabilise le nombre de victoires entre janvier et juin, est-ce que vous vous engagez à planter autant d'arbres qu'il y a eu de victoires durant cette période ? Pour nos jeunes, hein, les petits, les U10, U11, U12, U13. Et la mairie a dit banco, allez, on relève le défi. Donc,
il n'y a pas eu de discussion avec la mairie. Ils sont partis tout de suite sur le projet.
Ils étaient très, très partants parce que c'est une mairie qui est relativement ouverte à tout ce qui est environnement, tout ce qui est nature. On est dans un petit village dans l'Arlesilde, au sud de Douai. Mm-hmm. C'est un village rural. Donc, on est dans un environnement déjà très protégé. Mais bon, on essaye de faire encore mieux et la mairie est partante pour aider à tous ces projets-là, quoi.
Alors, racontez-nous un petit peu le montage de ce projet, parce que vous disiez les U10, 12, hein, c'est ça. En fait, c'est cette catégorie de jeunes qui n'ont pas de classement officiel et ça a été aussi un moyen de challenger un petit peu leur match à ces jeunes.
Oui, c'est exactement ça. Dans le football animation, donc dans les catégories U10, U11, U12, U13, il n'y a pas de classement. C'est-à-dire qu'ils font des matchs, mais il n'y a pas de classement. Il n'y a pas un premier, un deuxième, un troisième, etc. Donc les gamins, ils font des matchs au coup par coup. Voilà. Et nous, pour leur donner un objectif sur les semaines qui arrivent, sur les matchs qui arrivent, on a décidé de faire ce projet. Donc on affichait chaque mercredi le nombre d'arbres qui avaient été gagnés le week-end précédent. Mmh. Et chaque mercredi, les enfants étaient très contents de venir voir l'affichage en disant, bah voilà, on a encore gagné 12 arbres et encore 3 arbres. Et voilà. Et ça a permis de motiver jusqu'à la fin des matchs, quoi. Et c'était vraiment très, très, alors, très, très bien parce qu'on a senti un engouement très important.
Alors, vous l'avez peut-être déjà dit, mais on va le redire, combien d'arbres ont été plantés ?
On a planté 33 arbres.
Donc ça veut dire que vous avez gagné 33 matchs sur combien dans l'année ?
On a gagné 33 matchs sur 6 mois, quoi, sur une demi-saison.
Sur une demi-saison, ce qui est absolument fabuleux. Est-ce que ça fait un peu des émules autour de vous ? Parce que je suppose que bah, quand vous rencontrez des clubs, les enfants, quand ils gagnent, ils sont contents parce qu'ils bah, ont planté des arbres. Donc évidemment, dans les clubs avoisinants, les clubs que vous avez rencontrés, ça commence à se savoir. Est-ce que ça fait des émules sur d'autres clubs et d'autres municipalités, bah, d'autres villages ?
Bah, maintenant, ça bouge un peu dans la mesure où on a eu le Grand Prix de la Fondation Philippe Séguin.
Ouais.
Là, vraiment, bon, parce qu'on a un peu médiatisé notre Grand Prix. Et puis, voilà, on s'intéresse un peu à notre façon de voir le football dans les petits clubs, ce qui n'est pas le football qu'on voit à la télé ni qu'on entend à la radio. Quoi.
Mais il y a d'autres clubs qui vous emboîtent le pas ou pas ?
Pas pour l'instant.
Non.
Pas pour l'instant, mais bon, ça sera très bien si on peut essaimer cette petite idée. Si ça peut marcher, ça peut être vraiment très très bien.
Alors sur la fin
nous,
de l'année,
pour, hein.
J'imagine. Alors sur la fin de l'année, il y a eu une autre idée qui a émané de la mairie, mais cette fois-ci, c'est la mairie qui est venue vous voir, si j'ai bien compris, hein, pour un verger.
La mairie nous a dit, nous on va monter un verger communal. Mmh. Alors est-ce que vous pouvez reprendre le même système? Alors là, on a pris un autre système. On a lancé un défi sur un week-end.
Mmh.
Et on a demandé à la mairie, on a dit à la mairie, voilà, le nombre de buts marqués sur ce week-end-là correspondra au nombre d'arbres fruitiers que vous allez mettre dans le verger. Et la mairie a dit banco. Donc, on a mis 18 buts sur un week-end. Enfin, les enfants,
ont
mis 18 buts sur un week-end. Donc, forcément, planter 18 fruitiers aux alentours du stade et des jardins familiaux qui viennent d'être ouverts il n'y a pas très longtemps.
Alors, les enfants ont gagné des matchs, ont marqué des buts. La mairie a planté des arbres. Est-ce qu'il y a une coopération ? Vous êtes un petit village, donc très certainement. Est-ce que aussi les enfants participent au fait de planter les arbres, d'aller voir leurs arbres ? Est-ce qu'il y a une forme d'adoption de ces arbres qui sont plantés par cette jeune génération ?
Oui, complètement. D'abord, les arbres ont été plantés par les enfants au mois de décembre avec le service technique de la ville d'Arleux, qui est notre commune. Les enfants ont planté les arbres avec les services techniques. Donc ça a été déjà un très gros point. Et sur chaque arbre, il y a une petite note qui correspond au match qui a été gagné. Match gagné par telle équipe contre telle équipe.
Ça vaut toutes les coupes d'Europe du monde, ça ?
Ça vaut toutes les coupes d'Europe du monde. Et puis, les arbres ont été plantés autour du stade.
Mmh. Donc, ce qui va permettre...
Donc, les gamins sont toujours à proximité des endroits. D'ailleurs, ce qui est remarquable, c'est que pas plus tard que mercredi dernier, il y avait un papier qui était au pied d'un arbre. Ouais. Les enfants se sont empressés de l'enlever.
Ça allait polluer leur arbre.
Ça allait polluer leur arbre, voilà.
Et puis les parents des générations futures pourront regarder les matchs à l'ombre de ces arbres quand ils seront tout feuillus et permettre à toutes et tous de pouvoir être à la fraîche. On sait que les températures vont monter. J'espère qu'il y aura un petit peu d'eau pour boire sous ces arbres. En tout cas, merci beaucoup Bernard d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Nous, on se quitte pour mieux se retrouver la semaine prochaine. La semaine prochaine, on évoquera une personnalité, rien à voir avec les arbres, avec l'Olympique Sancéen. On parlera d'une personnalité que vous connaissez bien avec une autrice qui vient de sortir un ouvrage sur sa biographie. Il s'agit d'Elon Musk. On verra qui est cet homme, quelle est cette figure un peu messianique qui aujourd'hui truste la tech. On sera justement à la fin de VivaTech et ce sera justement le second volet de cette réflexion autour de la technologie. D'ici là, portez-vous toutes et tous très très bien. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur rcf.fr, sur les plateformes de podcast dédiées pour ceux qui ne veulent pas aller sur notre plateforme. Mais vous auriez bien tort. Moi, je vous souhaite un très très bon week-end à l'écoute des programmes de RCF. À très bientôt. Au revoir.